70, 71, par là autour. Et voilà, donc c'est quelqu'un que je connais bien, qui me connaît bien aussi, et que j'ai la joie de recevoir aujourd'hui, qui va nous donner un témoignage. Que Dieu te bénisse. Merci, Liliane.
Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je pense que beaucoup de monde me connaît. Je connais, oui, Michel et Michou depuis les années 70. J'ai vu leur mariage. J'ai connu Teen Challenge, où j'allais pratiquement 3 à 4 fois par semaine, après mon boulot le soir. Et on a vécu des choses assez formidables à Teen Challenge. Hein. C'était les débuts, c'était fantastique. Il y avait des conversions, il y avait des délivrances. C'était un camion-bar sur le bord de la Seine. Et c'était authentique. Il s'est passé des choses formidables, vraiment. Mais moi, avant cela, j'étais un petit peu rebelle quand même. Hein. Il faut ce qu'il faut. J'avais une maman luthérienne au départ, donc qui m'a traînée dans les églises luthériennes lugubres de la région parisienne. Ensuite, qui s'est convertie dans une église baptiste et qui m'a apporté la parole. Et j'avais 15 ans. J'avais 15 ans, c'était absolument épouvantable. Parce qu'à 15 ans, on a envie de tout sauf ça, quoi. Et puis un jour, des amis de mes parents m'ont dit, écoute, il y a des gens qui vont chanter, qui vont jouer de la guitare dans une église, viens écouter de la musique. Je dis, bon, écouter de la musique, oui, je veux bien. J'y suis allée, et là, il y avait au moins 2000 personnes là-dedans, je ne sais pas, c'était à Paris, grande salle avec plein de prédicateurs. Et quelques jours avant, j'avais dit à ma mère m'avait dit, voilà, ma fille cherche le Seigneur. J'ai dit, maman, moi je veux bien. Moi, je ne sais pas où il est. Lui, il sait où je suis, qu'il vienne me chercher. Donc, ce fameux dimanche, je vais dans l'assemblée et les pasteurs prêchent, et ils prêchent surtout sur un qui s'appelait Archange, prêchent sur l'enlèvement de l'Église. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Ça m'a bouleversée. Et j'ai dit, voilà, j'attendais un Dieu comme ça. Un Dieu extraordinaire, pas un Dieu qu'on m'apprenait dans les murs, un Dieu qui fait des choses formidables, qui va m'enlever. Là, ça, je marchais pour ça. Et voilà, les gens s'approchent les prédicateurs disent, approchez-vous, vous êtes malade, venez, on va prier pour vous, vous voulez machin. Moi, je ne voulais pas. Je suis restée derrière. Et à ce moment-là, les prédicateurs sont mis dans la foule pour prier. Et Archange est venu vers moi. Il a écarté la foule. J'ai dit, oh là 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 là, il vient vers moi. Il vient vers moi. Et il est venu vers moi et il m'a dit, toi, tu seras un véritable enfant de Dieu. Il est reparti, il est revenu, il m'a dit, tu seras vraiment un véritable enfant de Dieu. Et là, de ce jour-là, je suis vraiment devenue un enfant de Dieu. Ça a été instantané, d'une minute à l'autre. Et après, je suis venue à Teen Challenge, j'ai connu Michel, enfin, reçu le baptême du Saint-Esprit en ta présence, sur le bord d'un bout de béton du cadeau Sterlitz. C'était formidable. Et puis voilà, ma vie a continué, là, nous a séparés, on a tous fait notre vie, on s'est mariés, moi je suis partie à l'île de la Réunion, enfin bon, bref. Et je suis revenue de l'île de la Réunion, et là il s'est passé une chose en 2007. J'étais très fatiguée, je travaillais, j'étais très fatiguée, j'étais consultée. Et après un examen chirurgical minime, on s'est aperçu que j'étais atteinte d'un cancer de l'endomètre. J'avais jamais été malade, mais là j'étais dans une fatigue épouvantable. J'ai été consultée donc dans un hôpital prestigieux de Paris quand même. Et puis j'ai appelé Michel et j'ai dit, Michel, voilà, j'ai un cancer. Il m'a dit, on va prier, tu seras guérie. Et il m'a dit, tu es guérie. J'ai cru, j'ai dit oui, d'accord, je suis guérie. Je vais voir mon médecin. Mon médecin m'a dit, écoutez, hystérectomie totale, on va analyser tout ça. 57 ans, hystérectomie totale, c'est pas grave. Hein. Je veux dire, moi, ça me gênait pas, j'y suis allée. En rentrant dans la salle d'opération, c'était une jeune toubib, elle devait avoir 30 ans, là, la chirurgienne, pas plus. Je lui ai dit, que Dieu bénisse vos mains. On est rentré dans la salle, l'opération a duré 2 heures au lieu de 3, ça s'est très très bien passé. Ils ont analysé 40 segments de ce qu'ils avaient retiré et il n'y avait absolument pas de cancer. Elle m'a vu 15 jours après, donc pour m'annoncer ça, avec un immense sourire, elle qui faisait tout le temps la tête. Et elle m'a dit, pas de chimio, pas de radio, pas de curithérapie. Elle dit, vous êtes guérie. Et je lui dis, gloire à Dieu. Voilà, j'étais guérie. Et puis, je veux dire, il n'y a pas eu le moindre doute. Je dis, j'ai su que la communauté avait prié pour moi, que Michel avait prié pour moi. Quand il m'a dit, tu es guérie, j'ai dit, oui, je suis guérie par le nom de Jésus, je suis guérie. Je l'ai cru complètement. Je ne me suis pas posé de questions, pas dit, bon, qu'est-ce qu'on va trouver à l'examen et tout. Non, j'étais guérie. Bon. Et puis il y a eu pire, enfin pire, plus grave, plus dur, plus incroyable pour nous. C'était en 2011, là où je travaillais. On court dans mon bureau, on vient m'annoncer, un jeune s'est effondré dans une salle. On n'arrive pas à le réanimer, il ne respire plus, il n'y a plus de battement de cœur, on appelle les pompiers, on appelle le SAMU, on appelle tout le monde. Il s'acharne dessus pendant 2 heures. Oh, ça a dû arriver vers 8h30, 9h, et ils sont repartis à 11h30 avec lui dans le camion. En plein hiver, il l'avait laissé dehors, moitié torse nu. Et moi, sur le bord du trottoir, j'ai appelé Michel. J'ai dit, Michel, on a un mort là, dans l'établissement. On a un mort et il a 19 ans, fils unique des parents, déjà âgé. Et j'ai dit, on prie, on le ramène. Michel m'a dit, ok, on va prévenir tout le monde, on va prier. Le soir, je lui renvoie un SMS, je lui dis, ils veulent le débrancher à 17h30. Il faut qu'on prie pour que la mère refuse. La mère a refusé. 3 jours après, c'est-à-dire que c'est arrivé un vendredi, le lundi, il se réveillait sans séquelles, alors que tout le monde avait dit qu'il était fichu, que c'était fini, qu'il fallait le débrancher. Et il s'est réveillé vraiment sans séquelles. Et j'avais témoigné au lycée, c'est-à-dire le jour même, sur le bord du trottoir, j'avais dit, il va revenir. Ils m'ont dit, elle est folle. Moi, j'ai dit, il va se réveiller parce que Jésus a dit, vous ferez les choses que j'ai faites, vous en ferez même de plus grandes parce que je retourne au Père. Il fallait qu'on le croie. Si on ne le croit pas, on doit croire à ces choses impossibles ou sinon on est comme lui, je veux dire. Et puis il est là, il est vivant, il est au milieu de nous. Si on lui dit, écoute Seigneur, il est mort, il faut le ramener, il ne va pas dire, ben, ça ne va pas, non. Je ne sais pas, n'importe quoi. Mais c'est vrai que c'était assez spectaculaire parce qu'il était mort. Il est revenu d'entre les morts. Et Michel me disait, je l'ai appelé, je lui ai dit, reviens. Il a dit, reviens. Et il est revenu 3 jours après. C'est assez symbolique, ces 3 jours. Parce que Jésus, lui, a été crucifié un jeudi. Mais lui, Kevin est mort un vendredi et revenu un lundi. Mais c'était vraiment les 3 jours et les 3 nuits, quoi. C'était absolument fabuleux. J'ai eu Kevin au téléphone après. Et il m'a dit, qu'est-ce qui m'est arrivé? Parce que personne ne lui avait dit. Mais j'ai dit, mais moi, je vais t'expliquer. On a parlé pendant 1 heure. Comment ça s'était passé d'un bout à l'autre et comment il était revenu. Et je l'ai laissé avec ça. Je veux dire, ça doit être assez troublant pour lui, quand même. Hein. Mais il a écouté ce que j'avais à lui dire. Il a dit, je voulais savoir comment que c'est possible, parce qu'il dit, à l'hôpital, il était dans le plus grand service cardiologique de la Salpêtrière. Ils lui ont dit, vous êtes un miraculé, nous on ne pouvait rien faire. Vous étiez mort. Et surtout sans séquelles. Sans séquelles, rien qui marchait pendant 3 jours et sans séquelles. Et je l'ai vu un jour, ses copains me l'ont ramené en classe. Ils m'ont dit, regardez, on a trouvé quelqu'un pour vous dans la rue. Et ils m'ont ramené Kevin en forme. C'est magnifique. Moi, j'ai dit, gloire à Dieu, vraiment, il faut s'attendre à n'importe quoi, des choses extraordinaires. Moi, j'ai dit, voilà, c'était le Dieu que je voulais quand j'avais 20 ans. Ce Dieu qui est, ce Jésus qui fait des choses, qui, pas ce Jésus à qui on dit, gna gna gna. Non, Jésus, voilà, il a dit qu'il ferait ça, il le fait. Hein? Et il faut, ma mère me disait, tu n'es pas sage, ma fille. Je veux pas être sage. Avec le Seigneur, je veux pas être sage. Il était pas sage. Aux yeux des hommes, à l'époque, il était pas sage, Jésus. Il ressuscitait des morts. Le jour du sabbat, guérissait des gens. C'était terrible, quoi. Et ben, moi, je veux être comme ça aussi, quoi. Tous les jours, et puis, dans la simplicité, pas me compliquer la vie. Et moi, je dis merci, Seigneur, parce que ça fait 30, plus de 30 ans qu'on se connaît, je veux dire, il y a toujours la même fidélité, là. J'ai vu naître la communauté, je veux dire, et tout le monde est là, toujours fidèle, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de gens comme ça dans notre entourage, je veux dire, hein, et ça c'est exceptionnel, je remercie Dieu pour ça aussi, c'est exceptionnel aussi le week-end que je passe ici, de retrouver, j'ai l'impression de revenir 30 ans en arrière, 40 ans Michel, arrête, oh, ça fait 10 ans de trop là. Voilà, je vous remercie tous pour ce que vous êtes, pour l'amour que vous témoignez, pour votre présence quand il y a un problème, parce que je sais que vos prières sont derrière. Et tout ça, c'est le corps de Christ, quoi. Voilà.
Monde. Ça va bien par ce dernier jour d'hiver? Amen. Nous allons faire une lecture dans le psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen.
Gloire à Dieu.
Que Dieu ajoute sa bénédiction à sa parole. Vous savez que je ne suis pas poème, hein. Mais là, j'en ai lu un et j'ai trouvé que c'était beau et j'ai décidé de vous le lire ce matin. Ô monde de printemps et d'automne, de naissance et de mort, le cycle infini d'idées et d'actions, d'inventions, d'expériences infinies apporte la connaissance du mouvement, mais non du calme. La connaissance du discours, mais non du silence. La connaissance des mots et l'ignorance de la parole. Toute notre connaissance nous rapproche de notre ignorance, toute notre ignorance nous rapproche de la mort. Mais une approche de la mort qui ne rapproche pas de Dieu. Où est la vie que nous avons perdue en vivant? Où est la sagesse que nous avons perdue dans la connaissance? Où est la connaissance que nous avons perdue dans l'information? Les cycles des cieux en 20 siècles nous éloignent de Dieu et nous rapprochent de la poussière. C'est pas très positif, mais mon Dieu, que cela décrit bien l'état de ce monde, n'est-ce pas vrai? Et en particulier celui de l'Église, où on se vante d'être sage, mais on est devenu vraiment fou. Ça devient grave, mes frères et sœurs. Si on pèse les mots de ce poème, on se sent tout drôle. Je vous invite à y réfléchir. Et la question qui m'est venue en méditant sur ce poème, c'est: mais où est-ce que j'en suis avec ma propre sagesse? Sur l'échelle de la sagesse, où est-ce que j'en suis? Tout à l'heure, Liliane nous disait que sa maman lui avait dit: mais tu n'es pas sage. Et elle lui a répondu: mais je ne veux pas être sage. Bien sûr, je ne veux pas être sage, comme elle l'a dit après, selon ce monde, mais je veux être sage selon Dieu. Et quand Jésus était sur cette terre, c'était pas vraiment la sagesse de l'homme qui l'a manifestée. Il faisait des choses extraordinaires, qui sortaient de l'ordinaire, qui n'étaient pas sages, qui le mettaient même en danger. Dernièrement, je parlais avec un homme qui avait un air très heureux et qui l'air le plus heureux du monde, m'a dit: je suis enfin arrivé au bout de mes problèmes. Et moi, en moi-même, j'ai pensé: oui, mais tu sais pas à quel bout. Vous vous rappelez de l'histoire, il y a deux bouts. Hein? Quand on dit, vous connaissez, c'est un sketch, je crois, de Vos, hein, qui dit: quelqu'un m'a demandé un bout de bois. J'ai tendu un bout de bois. Mais il voulait le bois en entier, moi je gardais l'autre bout. Lui, il a voulu un bout, ben qu'il le prenne, moi je garde l'autre bout. Et il fait toute une histoire là-dessus. Vous voyez, cette année, je vais fêter mes 45 ans de conversion. Alain nous disait que l'année prochaine, il fête ses 30 ans de mariage. Et nous, avec la mission, on va fêter nos 45 ans de mariage. Il faut qu'on trouve un truc à faire. 40? Ah bon, pas 45. J'ai tendance à me vieillir, mais j'aime bien ça. Vous savez, c'est un truc chez moi. Ça fait 10 ans que je me donne plus... Je dis que je suis plus vieux que en réalité. Parce que quand je serai vraiment vieux, ben, j'aurai pris l'habitude, vous comprenez? Donc 40 ans. Mais j'ai marqué 45 hein, sur mes notes, hein, parce que j'avais bien peur d'oublier encore combien d'années. Voilà, c'est l'âge, hein, c'est mon grand. En tout cas, je me dis une chose, c'est que après toutes ces années de... Non, c'est 45 ans de conversion cette année, c'est ça, hein, 45 ans de conversion. Eh bien, plus le temps passe, plus je vois que... plus j'en apprends sur la sagesse de Dieu, plus je crois que en fait j'en suis au début. J'en suis au début. C'est un petit peu comme si je dans toutes ces années j'avais fait que de caresser un petit bout de bord d'océan, quoi. C'est tellement grand et ça rend humble, ça, de se rendre compte que finalement, eh bien, il nous reste beaucoup à apprendre encore. Il nous reste beaucoup à apprendre. C'est très. J'aimerais pas être dans la peau de quelqu'un qui dit: je crois dans le plein évangile. Parce que ça doit être terrible de se dire: je crois tout ce qu'on peut croire, il n'y a rien d'autre. Ah, c'est affreux. C'est affreux. J'espère que je vais ce matin accroître votre désir d'acquérir de la sagesse, et en particulier la sagesse de Dieu. Parce que il y a des principes incontournables au sujet de la sagesse. La sagesse, elle est pluridimensionnelle. Ça veut dire que on trouve des tailles différentes, on trouve des couleurs différentes aussi dans la sagesse. Alors c'est vrai que quand on acquiert de la sagesse, étant jeune, Eh bien, c'est mieux que de l'acquérir quand on arrive sur les dernières années de notre vie, parce que le fait d'acquérir la sagesse quand on est jeune, ça nous assure quand même une vie plus confortable, parce que plus paisible intérieurement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème, mais on a de quoi à l'intérieur les gérer beaucoup mieux. Mais quand même, on se rend compte que cette sagesse acquise dans un domaine, eh bien, elle peut ne pas être utilisable dans un autre domaine, parce que la sagesse est multidimensionnelle. Par exemple, il y a de la sagesse dans ce monde. On ne peut pas nier cela. Elle est très précieuse, cette sagesse. Si vous ne pensez pas qu'elle est précieuse, il ne faut surtout pas envoyer vos enfants à l'école. Non, moi, je les envoie pas, c'est obligatoire. Ah bon? Non, c'est très précieux. Mais j'ai remarqué que cette sagesse, elle prend encore plus de valeur quand elle est humblement inclinée devant la sagesse de Dieu. Inclinée devant la sagesse de Dieu. Je dis ça parce que la Bible nous parle souvent de ces deux sagesses. Il y a la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Et la sagesse du monde, elle a deux aspects. Elle a un aspect qui est positif, puis elle a un aspect qui est négatif. La sagesse du monde, elle est souvent une vérité partielle, mélangée à de l'intelligence et de la manipulation pour pouvoir atteindre des buts pas toujours bons et très souvent égoïstes. Vous connaissez ça, c'est le côté négatif de la sagesse du monde, mais aussi le côté positif, cette sagesse qui s'acquiert par l'étude, par la réflexion, par l'observation, par le travail. Et c'est très utile, toute cette sagesse-là, et les gens du monde, qu'ils soient élus de Dieu ou pas, ceux qui sont honnêtes, ils l'acquièrent au cours de leur existence et ils peuvent avoir une meilleure vie grâce à cette sagesse. Avec le temps, si on observe, j'aime bien voir mon petit-fils, il est toujours en train de tout regarder, de tout observer. Ça me fait plaisir de voir ça, c'est formidable. D'être comme ça, d'observer, de réfléchir, d'apprendre. Quand on est curieux, on apprend beaucoup de choses. Quand j'étais plus jeune, j'aimais bien passer du temps avec les personnes âgées. Hein, on me voyait toujours avec Camilla, avec des vieux sages, des vieilles sages. Et puis, bon, aussi, j'aimais bien rigoler. Hein, quand on était, Liliane nous parlait tout à l'heure dans son témoignage c'était il y a 40 ans, on a chopé des fous rires. On n'était pas que des jeunes gens à chercher, n'est-ce pas, des choses profondes. On rigolait, on se marrait bien aussi. Mais j'aimais bien la compagnie des personnes âgées parce que ils ont une sagesse que je n'avais pas parce qu'ils avaient eu le temps de l'acquérir. Et je savais que j'apprendrais beaucoup avec eux. Or, on peut échapper, je vous dis ça à vous qui êtes jeunes encore, on peut échapper à beaucoup d'expériences malheureuses que certaines connaissent dans leur vie, que certains connaissent dans leur vie, tout simplement en prenant conseil et en apprenant auprès des personnes plus âgées. Et on devient plus rapidement sage en écoutant les vieux, en lisant des livres. Moi, j'ai des vieux bouquins. Alors, par dedans, il y a des trucs qui sont... c'est dépassé, c'est un petit peu... Voilà, ça fait pas très moderne hein, comme idée, mais il y a toujours dedans quelque chose à prendre. J'ai des livres plus récents. Il faut lire parce que là-dedans, il y a de la sagesse. On peut obtenir une sagesse qui dépasse notre âge. Hier, en sortant de mon bureau, j'ai montré à Liliane un bouquin de Bernard Werber qui s'appelle l'encyclopédie du savoir absolu et relatif. Est-ce que vous avez lu ça? Il faut lire ça. En même temps, c'est rigolo, mais ça donne de la sagesse. Je suis sûr que même les très jeunes ici, ils aimeraient ça parce que il y a des exercices à faire, des trucs marrants. Vous devriez avoir ça. C'est important, c'est intéressant. Ça montre qu'il y a d'autres choses dans la vie que simplement Facebook. Hein? Ça va, mais ça va, t'es où? Ah bon, il neige, oh, c'est pas fini l'hiver. Il faut rechercher cette sagesse, utilisez votre esprit, observez avec soin ce qui se passe, les choses, passez du temps, n'est-ce pas, et pensez aux choses que vous vivez. Écoutez bien ça, j'ai vu que la sagesse ne se transfère pas d'un domaine à un autre. Il ne faut pas trop se spécialiser, je parle encore pour la jeunesse ici. C'est assez récent ce truc-là que les gens deviennent spécialistes de quelque chose. C'est assez récent. Autrefois, il y avait des généralistes, beaucoup. On parlait d'une culture générale. Maintenant, on aime bien se spécialiser dans quelque chose. Et dans tous les domaines, on veut être spécialiste, professionnellement parlant, dans les arts, dans toutes ces choses. Et même d'un point de vue du ministère, moi, je vois, vous demandez qu'est-ce que vous. Ah, ben voilà, je m'occupe des drogués. Bon, ils ne s'occupent que des drogués. Mais c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire en s'occupant des drogués. Mais bon, c'est une spécialité, ils s'occupent des drogués. L'autre, ah ben là-bas, en Afrique, il y a les pasteurs des fous. Hein, ils disent ça, les pasteurs des fous. Ben voilà, c'est le pasteur des fous. Mais il fait rien d'autre que. Il faut dire qu'il y a tellement de fous, hein, que c'est vraiment nécessaire d'en avoir. Mais c'est quand même terrible qu'on se spécialise dans des trucs toujours comme ça. Bon. Mes frères et sœurs, la sagesse de ce monde, elle est sélective. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas qu'elle est forcément mauvaise, mais elle est sélective. Cette sagesse, elle peut être excellente, mais elle est toujours limitée parce que elle n'est pas toujours adaptable dans d'autres circonstances. Je me souviens, par exemple, de l'immense sagesse de Mademoiselle Jacquard. Personne n'a connu Mademoiselle Jacquard ici. Même dans ceux qui m'écoutent sur Internet, je suis sûr, ou à la télé, vous avez jamais entendu parler de la sagesse de Mademoiselle Jacquard. Eh bien, moi, j'ai encore une photo de Mademoiselle, deux photos de Mademoiselle Jacquard, parce qu'elle a marqué ma vie. C'était ma première institutrice en école enfantine. On appelait ça comme ça à l'école. C'était à 6 ans, on allait à l'école, c'était l'école enfantine. Eh bien, elle savait comment motiver tous les enfants de sa classe. Et elle savait quand les féliciter, elle savait quand il fallait être ferme avec nous. Je l'aimais, je voulais me marier avec. Hein, et je me souviens toujours de son visage, j'ai même une photo d'elle, tiens ça en fait une troisième, une photo d'elle où on la voit de dos, eh bien quand je vois sa photo de dos, je me rappelle son visage, il n'y a rien à faire, c'est une femme qui m'a marqué. Je me souviens aussi du docteur Cour à Chèvres, c'est lui qui m'a opéré de l'appendicite quand j'avais, je crois, je ne me rappelle plus, 10-11 ans. Il était imposant, il était toujours habillé en blanc et il était magnifique, il était tellement beau, propre, efficace. Hein, quand on allait chez lui, qu'on était malade, ben, il trouvait toujours ce qu'il y avait qui allait pas et il nous donnait ce qu'il fallait. C'était formidable. Moi, quand je le voyais, j'imaginais que Dieu pouvait, ça allait être difficile d'être plus extraordinaire que le docteur Cour. Docteur Cour, c'était presque Dieu, il était sage. Il savait nous rassurer. On n'était pas bien, il nous rassurait avec les suppositoires. Bismucone. Hein, c'était presque que ça, le médicament, parce qu'on avait toujours la même maladie, c'était. Il était formidable. Bon, la sagesse de Mademoiselle Jacquard était parfaite, celle du docteur Cour aussi. Mais je vous assure que je n'aurais pas été trouver la Mademoiselle Jacquard pour me faire opérer de l'appendicite. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. La sagesse est sélective. Frères et sœurs, la sagesse qui mène au succès dans ce monde, elle doit être prête à céder le pas à la sagesse de Dieu. La sagesse du monde, elle peut être bonne, mais elle ne peut pas remplacer celle de Dieu. Et c'est parce que on ne veut plus de la sagesse de Dieu que le monde va là où il va en ce moment. On peut pas, c'est pas possible parce que toutes les formes de sagesse ne sont pas égales. Quelqu'un peut être très sage dans un domaine, ou deux, ou trois. Le psalmiste disait, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, qu'on vient de lire tout à l'heure. Voyons ça. Savez-vous ce que c'est qu'une révérence? Élise, elle sait ce que c'est une révérence, elle fait de la danse. Une révérence, tu sais ce que c'est. Mais qu'est-ce que signifie le mot? Le mot signifie profond respect. C'est pas de faire ce geste-là, faire une révérence. C'est d'avoir un profond respect. La révérence, c'est la vénération. Eh bien, le respect profond pour le Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. La vénération. Ce profond respect pour Dieu et tout ce qui le concerne, c'est-à-dire sa création, vient de ce que nous avons appris par révélation, que notre Père Céleste a toute la sagesse et tout le pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ça force au respect. Sa force au respect. Sa sagesse, elle est pure, elle est parfaite. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas intéressée. Elle est désintéressée. Qu'est-ce que vous voulez qu'on lui apporte de plus que ce qu'il n'a déjà? Il a tout. Elle est complètement désintéressée. Alors, parfois, sa sagesse entre en opposition avec celle du monde, même si cette sagesse du monde est bien. Parfois, la sagesse de Dieu et la sagesse du monde peuvent entrer en conflit. Souvenons-nous de ce que Dieu a dit un jour au travers d'Ésaïe le prophète, on trouve ça dans Ésaïe 55, 8, 9, « Mes pensées, c'est Dieu qui parle, ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant vos voix sont élevées, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Hier, dans mon bureau, nous avons regardé un film qui s'appelle « La randonnée des Mormons ». C'est l'histoire de Brigham Young, celui qui a succédé à Joseph Smith et qui a conduit le peuple jusqu'à Salt Lake City, qui était alors un marécage. Et quand il arrive là, tout le peuple, ce sont des milliers, il plante en espérant récolter. Et puis, ils ont faim en attendant, ils sont obligés il y a des restrictions, tout l'hiver est dur et long. Finalement, le printemps arrive, ça commence à pousser. Et des millions de sauterelles arrivent pour dévorer ce qu'ils ont planté. Et c'est une catastrophe. Et il y a quelques-uns dans le peuple qui se révoltent en disant « Nous avons cru en toi, tu nous aurais dit que Dieu, c'était toi Dieu, on t'aurait même cru, mais tu nous as trompés, regarde dans quel état on est. » Et puis lui, il est ébranlé par ça, alors il se retire dans sa cabane de rondin, et puis sa femme le suit parce qu'elle voit qu'il est très troublé. Et il s'accoude là, et puis il dit, mais mon Dieu, est-ce que je les ai trompés? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu ne m'as pas parlé? Il faut que je leur dise la vérité. C'est vrai, c'est catastrophique, c'est épouvantable. Et puis pendant qu'il est en train de prier, tout d'un coup, on entend des bruits dehors, des cris stridents, et ils vont regarder à la fenêtre, et c'est des milliers, des centaines de milliers de mouettes qui arrivent pour bouffer les criquets. Et évidemment, leurs récoltes sont sauvées. Alors il sort de là, et sa femme lui dit, tes discours et toutes ces belles choses que tu dis, c'est Dieu qui te les inspire, mais sa façon de parler n'est pas la nôtre. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir, mes frères et sœurs. Ce que vous entendez là, tout ça, tout ce que je vous dis, tous ces enseignements que je vous apporte, c'est très bien, mais la façon que Dieu a de parler, c'est pas ça, c'est autre chose. Il faut écouter à un autre niveau. Il faut écouter à un autre niveau. Ce qui peut se communiquer par la parole, ça ne dépasse pas la chair. Quand je dis la chair, c'est la chair ici, mais c'est la chair aussi votre chair, c'est-à-dire votre intelligence, votre façon de comprendre, de traduire la chose, de placer ces paroles dans vos propres intentions de vie. Dieu parle autrement. Autrement que moi je parle. Ça ne veut pas dire qu'il me contredit. Mais sa façon est plus profonde. C'est à vous d'écouter, pas. Ne venez pas écouter Dieu simplement avec les mots que je dis. Vous avez entendu le poème au début? Les mots. Les mots trompent la parole. C'est terrible. Et alors, nous n'obtiendrons la sagesse de Dieu simplement que par grâce et non pas parce que nous y avons droit. Nous devons rechercher cette sagesse. C'est quelque chose que Dieu donne à ceux qui cherchent. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Jacques 1, 5. Mais il faut rechercher. Rechercher. Le film dont je vous parlais, qui s'appelle La randonnée des Mormons, vous le trouvez à la FNAC pour 10 euros. C'est un film tourné par Hollywood avec Tyrone Power, si ça vous intéresse. Il est en noir et blanc et il est sous-titré. Parce que voilà, ça n'a pas eu tellement de succès en France. C'est un vieux film, hein. Mais bon, c'est émouvant, c'est beau de voir ces hommes et ces femmes qui ont tellement souffert et qui, des moments où ils étaient au bord de lâcher, et puis quand même, le Seigneur a toujours... Dieu est le Dieu du dernier moment, vous avez jamais remarqué ça? Mes frères et sœurs, la sagesse de Dieu, c'est un don spirituel. On nous dit qu'il y a 9 dons spirituels. Non, c'est faux. Il y a 9 dons surnaturels, mais il y a des dons spirituels, c'est autre chose. La sagesse donnée par Dieu à celui qui demande, c'est un don de Dieu. Et un don de Dieu, c'est un don spirituel. Ça passe par l'esprit. C'est quelque chose qui dépasse simplement l'intellect. Alors, celui qui demande, il doit accompagner sa demande d'obéissance. Pourquoi ? Parce que Dieu, il est là, assis sur son trône, et puis il dit, non, t'es pas encore assez obéissant. Il faut obéir encore un petit peu. Non. Est-ce que c'est pour ça? Non, c'est pas pour ça, mes frères et sœurs. On est ses enfants, il aimerait nous gâter. Seulement, il y a un ennemi Et c'est à cause de l'ennemi qu'il veut que nous soyons obéissants. Parce que nous sommes venus sur cette terre pour prouver à cet être infâme, cet ennemi, que nous aimons notre Dieu. Et le meilleur moyen de lui montrer que nous aimons notre Dieu, ben c'est en obéissant à ses règlements. Oui ou non? Voilà pourquoi il exige l'obéissance. Voilà pourquoi il s'attend à ce que nous soyons obéissants. Alors Dieu a fait un pacte avec nous. C'est mesure pour mesure. Tu seras mesuré comme tu mesures. Mesure pour mesure. Je te donne dans la mesure où tu recherches, pas plus, pas plus. À celui qui reçoit la parole, Dieu va donner encore plus, n'est-ce pas vrai? Et c'est comme ça tout le temps. C'est comme ça tout le temps. Vous savez, les choses de Dieu sont de première importance. En fait, tout est de Dieu, mais je parle là de sa sagesse. C'est de première importance. Et ce n'est qu'avec le temps, avec l'expérience, avec des pensées soigneusement triées, réfléchies, avec des positions, des attitudes solennelles, qu'on peut découvrir cette sagesse. Et quand on en recherche, quand on est dans la recherche de la sagesse, ça n'apporte pas une satisfaction immédiate. C'est pas un truc à la mode. Maintenant, on peut aller faire, n'est-ce pas, des stages où vous allez prendre certaines positions et faire om, et puis voilà, vous allez ressentir quelque chose, et puis on va vous dire deux, trois trucs, et puis vous avez l'impression d'avoir acquis de la sagesse dans un séminaire cher, en plus, la plupart du temps. Non, 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 ça n'a rien à voir, ça c'est encore la chair. L'âme, c'est différent de l'esprit. La source de la sagesse de Dieu se trouve d'abord dans les Écritures, dans les enseignements des serviteurs de Dieu, dans les moments de prière. Et cette sagesse-là, elle vient toujours par le pouvoir de Dieu, par le pouvoir du Saint-Esprit. Je voudrais qu'on fasse une lecture encore dans 1 Corinthiens 2, 11, 13. 1 Corinthiens 2, 11, 13. Excusez-moi, d'habitude, je marque les pages, puis là... Ça m'a échappé. 2 Corinthiens 2, 11, 13. Ça n'a pas l'air d'être ça. Non, c'est 1 Corinthiens. Voilà. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu. Vous voyez ? C'est un autre domaine. C'est un autre domaine. La sagesse du monde s'acquiert par la réflexion. La sagesse de Dieu aussi, puisque ça passe par la lecture. Mais il faut cette dimension spirituelle. Avec la sagesse de Dieu, on voit au-delà de la situation dans laquelle nous sommes. Parce que l'esprit parle des choses telles qu'elles sont et telles qu'elles seront. Quand on rentre dans le domaine spirituel, on rentre dans l'intemporel et ensuite on revient dans le temporel pouvant gérer les choses au fur et à mesure parce qu'on a été hors du temps. Il faut avoir une vie spirituelle, avoir une relation avec Dieu qui est l'éternel, c'est-à-dire avec l'éternité, pas simplement avec le temporel. Ça, c'est la sagesse du monde, le temporel. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai démontré que toutes les formes de sagesse ne sont pas égales. Eh bien, nous devons apprendre que lorsque la sagesse du monde entre en conflit avec la sagesse de Dieu, nous devons nous soumettre notre volonté à la sagesse de Dieu, qui nous montre les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles seront vraiment. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes ici sur cette terre parce que nous avons voulu venir et nous sommes en mission, nous avons quelque chose à accomplir. Et dans l'Église rétablie de Jésus-Christ aujourd'hui, nous nous consacrons à l'apprentissage de la sagesse du monde et de celle de Dieu. Les deux. Et nous ne devons pas nous tromper sur celle qui a le plus d'importance. Par exemple, un exemple frappant, un exemple qui touche tout le monde, mais alors tout le monde, même les enfants, tout le monde. La sagesse du monde vous dira que ce n'est vraiment pas très sage de donner votre dîme maintenant. Ah non, faut pas là, ça c'est pas possible, tu vas pas t'en sortir. T'as trop de problèmes financiers, c'est pas sage. Si tu fais ça, tu vas pas pouvoir payer ta facture d'électricité. Faut surtout pas. Non, ça attendra. Dieu attendra. Il a toute l'éternité. Il peut attendre un mois ou deux. La sagesse du monde te dit ça. Vous voyez? Ça, c'est un cas très courant pour beaucoup de chrétiens en temps de crise surtout, mais même quand c'était pas la crise, hein. Moi, je me rappelle, hein, quand c'était pas la crise, les gens disaient déjà ça, hein. Mais comment voulez-vous que je paye ma dîme, le dixième de mon revenu, mais avec toutes les factures que j'ai. Vous voyez, là, c'est la sagesse de Dieu qui entre en conflit avec la sagesse du monde. C'est pas très sage de payer sa dîme. Si vous êtes perspicace, vous verrez que souvent, vous allez vous trouver devant cette sorte de conflit, dans ce genre de test, pas seulement pour la dîme, mais quand on parle de la dîme, ça se coud. Où placez-vous votre confiance? Paul écrit, où est le sage? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? 1 Corinthiens 1:20. Où il est le sage? Celui qui dit, oui, c'est vrai, il faut que je sois sage. Non, attends, de quelle sagesse? 1 Corinthiens 3:18-19 nous dit, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou. Afin de devenir sage, comment ça se fait qu'ils deviennent fous? Oui, pour que d'un coup ils se rendent compte, non mais ça va pas. Et puis qu'ils se ressaisissent pour devenir sage, vous comprenez? Il pense qu'il est sage, alors il va devenir fou pour que d'un coup, non mais attends, il faut que je me ressaisisse, ça va pas. Vous voyez là, frères et sœurs? Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde, c'est une folie devant Dieu. Mais on vit quand même avec. L'important, c'est de ne pas se tromper sur celle qui a le plus d'importance. C'est ça. Les tests sont là, pas pour autre chose que pour nous apprendre où nous en sommes sur l'échelle de notre sagesse. Je vous disais tout à l'heure, où est-ce que j'en suis sur l'échelle de ma sagesse? Ben voilà, les tests sont là pour montrer. Pour nous apprendre si nous allons laisser la sagesse de Dieu guider notre chemin ou si nous allons utiliser la sagesse mondaine. Le monde aujourd'hui, il est en crise. Et il donne un enseignement, et on n'y échappe pas, à moins de se boucher les oreilles, de se fermer les yeux, on n'y échappe pas. La télé, la radio, le net, les journaux, le cinéma, tout le monde parle de ça. Ce dont tu as envie, tu dois l'avoir. Voilà, ça c'est ce que le monde nous enseigne. Hein, il enseigne que nous ne devons pas avoir à attendre, il faut l'avoir tout de suite. Des fois j'aime bien cette sagesse. J'ai pris la carte Fnac. Comme ça, je paye en 10 fois, je peux l'avoir tout de suite. Oui, mais quand même, je suis sage aussi, je fais attention. Parce que sinon, faut faire attention. Vous voyez, mes frères et sœurs, ça c'est le monde qui nous enseigne. Et puis alors, bon, ben, ça tente. Nous voyons maintenant la sagesse de Dieu, celle que les vrais prophètes enseignent. Je ne parle pas des prophètes, les fous malades qui s'autoproclament prophètes. Je parle des vrais prophètes. Les vrais prophètes enseignent, si vous regardez leurs enseignements dans la Bible, et les prophètes modernes aussi, qu'est-ce qu'ils enseignent? Le fondement, c'est l'autonomie et le travail. Être autonome, travailler. Être autonome et travailler. L'argent a une place, c'est d'abord la dîme, les offrandes, ensuite, nous devons dépenser moins que ce que nous gagnons. Mais c'est pas du tout ce que le monde fait. Même les États ne font pas ça. Les États sont endettés. Là, j'ai encore, j'étais regardé Simon, si j'avais du courrier sur le net, et j'ai vu, il y a encore un scandale, un nouveau. Ah, vous le connaissez pas, le nouveau? Ben, vous irez voir sur Internet, je ne me rappelle plus le nom de ce ministre. Je crois qu'on va apprendre par cœur le nom des ministres qui ne sont pas mouillés dans des scandales, ça ira plus vite que d'apprendre le nom des autres, hein. C'est terrible, encore un truc de pognon, voilà. Enfin, ils voudraient que tout se passe bien. Dans les familles, ils sont même pas fichus eux-mêmes, ils dépensent plus que ce qu'ils ont, ce qu'ils gagnent. Ensuite, nous devons faire la différence, ce que les vrais prophètes disent, ce que la Bible enseigne. Nous devons faire la différence entre nos besoins et nos envies. Moi, j'ai envie d'un tas de choses. Mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Nous restons dans les limites de notre budget. Nous mettons de l'argent de côté, même si c'est peu. Ne dites pas, oh, ça vaut pas la peine, c'est trop peu. Écoutez, voir, ça fait des années. Moi, je fais ça, hein. Quand je rentre, le soir, je vide mon porte-monnaie de toutes les pièces et je mets dans une boîte. Ça fait, à la fin de l'année, ça fait une fortune. Ça me prive pas vraiment sur le moment. C'est quoi? Mais à la fin, c'est comme ça que je paye les cadeaux d'anniversaire à tous les gamins de ma famille. C'est rigolo. Les petites pièces, les petits machins, ça a l'air de rien. Mettez de l'argent de côté. Et puis ensuite, respectez vos engagements. Voilà ce que les prophètes antiques et modernes enseignent. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Mes frères et sœurs, il n'y a pas d'avis de tempête à l'horizon. On pourrait dire, ben c'est bien alors. Non, il n'y a pas d'avis de tempête à l'horizon, nous sommes dans la tempête. Nous sommes dans la tempête. Est-ce que ces exemples parlant au sujet de l'argent que je vous donne là vous fait mesurer de quelle manière la sagesse de Dieu peut entrer en conflit avec la sagesse du monde? Nous sommes dans la tempête. Quand vous allez rentrer chez vous, prenez une feuille de papier et vous tracez une ligne verticale au milieu. À gauche, vous mettez la liste de ce qui relève de la sagesse du monde dans votre vie, dans vos choix, dans vos désirs, dans vos besoins, dans vos envies. Et à droite, vous mettez ce qui relève de la sagesse de Dieu. Quand je dis gauche-droite, il n'y a rien de politique là-dedans. Vous pouvez faire le contraire si vous voulez, hein. Mais faites-le, vous allez voir. Qu'est-ce que vous allez choisir? Qu'est-ce que vous allez choisir? C'est terrible. Ça rentre en conflit. Et le conflit, il est où? En nous. En nous. Les vierges sages, celles qui sont à l'écoute et règlent leur vie sur la sagesse de Dieu dans tous les domaines, c'est ça qui fait qu'elles sont appelées des vierges sages. Elles recherchent la sagesse de Dieu et en temps de crise, c'est un excellent temps, c'est le meilleur moment pour apprendre beaucoup de choses et rapidement sur la sagesse de Dieu parce que c'est tellement évident. On n'est pas obligé de réfléchir très longtemps. Ça nous saute à la figure tout seul. Comment est-ce qu'il faut que j'agisse? Sagesse du monde ou sagesse de Dieu? Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ça, c'est la promesse que le Seigneur nous a faite et c'était la prédication de vendredi. Mais si vous recherchez la sagesse de Dieu, sinon, mais ça va être la cata. Parce que nous n'avons pas de tempête à l'horizon, nous sommes dans la tempête. Alors il faut rester croché sur les bons fondements des prophètes, des apôtres, de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Restez crochés. Ne vous lâchez pas. Amen.